Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Bonjour David Goudart.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, essayiste britannique. Votre ouvrage Les Deux Clans est publié aux éditions des Arènes. Et j'ai jugé qu'il était important que l'on vous entende en France. Vos théories ont été extrêmement présentes en Angleterre au moment du Brexit. Et après, vous fournissez une clé d'interprétation. On peut être en désaccord avec elle, mais justement, avant d'être en désaccord avec elle, il faut au moins l'avoir entendue. Si je devais la résumer à la SERP, je dirais que selon vous, il y a deux types d'individus qui s'affrontent sur la scène politique. Les gens qui voient le monde de n'importe où et ceux qui voient le monde de quelque part. David Goudart, le populisme est aujourd'hui une vague mondiale et on témoigne ce que vient de dire Camille Magnard, y compris en Inde, avec Narendra Modi, on a une figure du populisme. Comment expliquez-vous cette diffusion du populisme à l'échelle mondiale?
Well, I think there are some things in common between what you might call the populism of...
Je pense qu'il y a certaines choses que l'on peut appeler communes entre le populisme de sociétés plus traditionnelles comme celle de l'Inde et des sociétés aisées comme l'Europe et l'Amérique du Nord. Dans les deux cas, le populisme tente de représenter ce qu'ils appellent la majorité silencieuse, cette majorité qui a été rendue muette par les politiques. Mais je pense qu'il y a de très grandes différences. Le livre que moi j'ai écrit porte sur le populisme ou ce qu'on pourrait appeler le rééquilibrage de la politique dans le monde riche. Ce qui est vraiment principalement une réaction à l'ouverture de nos sociétés économiques et politiques depuis la fin de la guerre froide au cours des 30-40 dernières années.
Mais alors, lorsque vous prenez votre pays, autrement dit l'Angleterre, on suit chaque jour, et il y a encore aujourd'hui des rebondissements dans le Brexit, est-ce que le Brexit est justement l'une des conséquences de cet affrontement entre ceux qui sont bien partout et ceux qui ne sont bien que là où ils sont nés, là où ils habitent, David Goudart?
Yes, I think it is. It's part of the.
Oui, je pense que c'est le cas. C'est la réaction contre la domination, surdomination des politiques par les gens de cette idéologie des gens de partout qui était tellement prévalente au cours des 25 dernières années. Regardez l'économie, l'économie du savoir, l'économie qui fonctionne pour des gens qui sont très éduqués. On regarde l'énorme expansion de la plupart de nos pays de l'éducation supérieure. Regardez la façon dont la démocratie est devenue de plus en plus technocratique. Tellement de décisions qui affectent notre vie quotidienne sont prises par des comités obscurs de l'OMC ou de l'Union européenne, par des gens sur lesquels, enfin, qui n'ont aucune responsabilité par rapport à nous. Il y a d'excellentes raisons légitimes pour que les gens se sentent aliénés. Je pense qu'il est intéressant de voir que les deux principaux actes de populisme dans le monde riche, le Brexit et l'élection de Donald Trump, viennent toutes deux de pays que l'on pourrait appeler anglo-saxons, qui ont été les qui sont dans un système bipartite. Et en fait, ce sont des pays qui ont mieux absorbé le populisme dans la politique quotidienne parce qu'ils l'ont absorbé dans leur parlement.
Mais alors, en France, puisque vous connaissez également David Goudart, la politique française, j'ai sous les yeux la une du Figaro avec un duel probable, selon un sondage IFOP, hein, entre Macron et Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 2022. Donc c'est de la politique fiction. Mais est-ce que cela signifie qu'en France aussi, on arrive à un système bipartisan avec peut-être là aussi votre grille de lecture entre ceux qui sont bien partout et ceux qui sont au contraire bien uniquement là où ils sont nés, David Goudart?
Les manifestations des Gilets jaunes étaient le plus pur exemple d'une révolte de ceux qui étaient de quelque part. Je pense que l'on va continuer de voir ce genre de manifestations parce que nous sommes dans une période de déséquilibre, pourrions-nous dire. Les anciennes certitudes. La politique depuis la Seconde Guerre mondiale a été principalement socio-économique, basée sur la classe sociale, sur l'utilisation du marché contre l'État, la taille des dépenses publiques, la redistribution. La politique dans le monde riche est passée dans une direction plus socio-culturelle, des problèmes à voir avec l'identité, la sécurité, l'ordre, les frontières, l'immigration, etc. Et la politique des partout libéraux, eh bien, n'arrive plus à donner de réponse et se retire sur l'économie sans cesse. Mais voilà, il doit y avoir un ordre économique parce que ces gens-là sont trop pauvres ou les inégalités sont trop fortes. Non, c'est un facteur, mais ce n'est pas le facteur principal. Si c'était simplement une question d'inégalité et d'économie, eh bien le populisme de gauche serait beaucoup plus important en Europe et en Amérique du Nord qu'il ne l'est. Il existe, certes, mais la plus grande partie du populisme, c'est un populisme des conservateurs nationalistes. Ce sont des gens qui trouvent que le changement social est trop rapide et ça les rend très mal à l'aise.
Mais alors, justement, pour qu'on comprenne bien d'où vous parlez, David Goodhart, le phénomène du Brexit, si on vous suit, il est donc la conséquence d'un affrontement entre des gens qui sont en quelque sorte bien partout, d'autres qui sont bien uniquement dans un endroit. Est-ce que c'est un phénomène que vous déplorez ? Est-ce que, au contraire, pour vous, le Brexit était souhaitable ?
Moi, j'ai voté pour rester dans l'Europe, mais nous avons voté pour quitter l'Europe. Nous sommes une démocratie, donc nous devons quitter l'Union européenne. Peut-être qu'on pourra la rejoindre dans 15 ans d'aujourd'hui. Mais le vote du Brexit, l'Union européenne, c'était un dommage collatéral, si l'on peut dire. Le vote pour quitter l'Union européenne, ça ne portait pas véritablement sur l'Union européenne, ça portait sur les divisions internes, sur les divisions des valeurs dont on a parlé, entre les bien partout et les bien quelque part. Parce que ce dont il faut se souvenir, c'est que la politique en Grande-Bretagne, comme dans la plupart des pays riches, est dominée par cette politique des biens partout, l'autonomie, l'ouverture, être à l'aise avec le changement rapide. Et c'est vrai pour le centre-gauche et pour le centre-droit. Dans la plupart des élections, donc, une grande majorité, si ce n'est la majorité des gens, ne sentaient pas que ni l'un ni l'autre parti ne représentaient leur prévention contre la modernité libérale. Et le référendum du Brexit était une occasion, pour la première fois depuis de nombreuses années, pour exprimer cette aliénation.
Bon, on a pu être surpris de cette situation, tout simplement David Goodhart, parce qu'on avait l'impression que Tony Blair était un peu le visage triomphant de la modernité. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
En fait, pour être juste avec Tony Blair, au début de la période du nouveau Labour, il sentait à quel point il était important de prendre les gens ordinaires, de les emmener avec lui, de les embarquer avec lui. il y avait une coalition. La plupart des partis de centre-gauche, ce sont des partis de diplômés de gauche. C'était vrai avec les socialistes, c'était vrai avec le Labour. En fait, les électeurs, les cols bleus, se sont réduits. Ou alors ils ne votent plus du tout, ou ils votent pour la droite dure, ou la gauche dure. C'est un peu moins vrai en Grande-Bretagne.
Mais Blair avait
dit quelque chose de très célèbre dans l'élection de 1977, soyons durs contre le crime, durs contre les causes du crime. Et cette phrase, eh bien, ça plaisait aux libéraux éduqués, diplômés, que le crime était causé par la société. C'était la société qu'il fallait condamner. C'était un cliché de la gauche. Mais ça plu aussi aux traditionnalistes. Une attitude vraiment plus draconienne à l'encontre du crime. Celle des gens ordinaires. Quelqu'un a commis un crime, eh ben, il doit être puni, c'est tout. Il fallait être dur contre les crimes.
As New Labour was in Mais office for all those years,
alors que le nouveau Labour était au pouvoir, ils ont perdu ce sens de la coalition. Ils ont agi, ils ont gouverné de plus en plus ouvertement pour le bénéfice de ceux qui étaient bien partout.
Mais pourquoi opposer les bien partout aux bien quelque part dans votre grille d'analyse pour expliquer le Brexit? Pourquoi, par exemple, ne pas dire que les conséquences de la politique anglaise a été tout simplement d'avoir d'énormes inégalités avec Londres, qui est une sorte de pays dans le pays, avec des gens immensément riches, et une Angleterre qui, elle, a de nombreux problèmes sociaux, David Goodhart.
Dire très clairement, la vision du monde séparée entre gens bien partout et gens bien quelque part, c'est parfaitement légitime. Mais en fait, ces gens-là ne sont pas tous unis, ils divergent sur beaucoup de points. Moi, la politique des gens de quelque part, j'appelle ça du populisme décent, honnête. La plupart des populistes, les gens qui votent pour les partis populistes, ont accepté la grande libéralisation des 20-30 dernières années sur la race, le genre, la sexualité. Ces problèmes, ces questions, ne sont pas les problèmes les plus importants pour eux. Mais ce ne sont pas des gens qui sont, comment dirais-je, coincés dans un certain état d'esprit.
And I mean, I'm afraid I or my book is.
Je crains que
relatively neutral.
Mon livre, en fait, bref, il est neutre de ce point de vue-là. Il décrit ces tribus de valeurs, ces groupes qui ont émergé. Alors que les grandes lignes de division en politique ont émergé également. Et je l'explique partiellement en termes de la façon dont les gens se sentent au monde. Il y a une distinction faite par Tucker Parsons, un sociologue américain, qui parle de l'identité humaine sur une palette entre une identité assumée et une identité prescrite. Je crois que c'est une façon très intelligente et intéressante de penser au monde moderne. Les gens éduqués, qui étaient mobiles dans leur vie, ont une façon de se voir qui vient de leur propre accomplissement. Des gens comme nous, on a passé des examens quand on était jeunes, on est allé dans des bonnes universités, on a eu plus ou moins de succès, des carrières professionnelles. Donc notre sentiment de nous-mêmes vient de ces accomplissements. Et ça signifie que notre sentiment, notre identité sont portatives. On peut vivre vraiment dans les banlieues, n'importe où, et se sentir à l'aise. Mais beaucoup d'autres personnes ont un sentiment d'identité qui vient beaucoup plus de l'endroit d'où ils viennent, du groupe auquel ils appartiennent, une identité que j'appelle prescrite. Enfin, qui l'appelle prescrite? Ce sont des fermiers écossais ou des gens, des ouvriers du Nord-Est, de la classe ouvrière. Et si vous avez une identité prescrite, elle est beaucoup plus sensible au changement. Parce que si votre groupe change à ce moment-là, ça peut vous mettre dans l'inconfort. Il y a ces divisions de valeurs, ces clivages de valeurs. Et vous avez raison quand vous parlez de la surdomination de Londres et toutes ces questions. Mais notre politique a été surdominée par les intérêts des partout et les hypothèses des gens qui sont bien partis et le vote du Brexit et le populisme dans les autres pays aussi, c'est une tentative de rééquilibrer, d'utiliser la démocratie pour repousser cette surdomination.
Alors David Goudard, dans ces conditions, comment expliquez-vous l'élection d'Emmanuel Macron qui lui aussi peut incarner l'un des visages de ces biens partout?
Emmanuel Macron, c'était le seul choix pour ceux qui ne voulaient pas voter pour la droite dure. Il n'était pas spécialement populaire à l'origine. C'était le moins mauvais, disons. Il a quelques accomplissements à son actif. Il a présidé lors d'une révolte des Gilets jaunes, il a dû faire retraite, il a dû vraiment concéder beaucoup de pans politiques. Et en quelque sorte, il représente la vision du monde de ceux qui sont bien partout, en quelque sorte. Et ce genre de politique peut créer des coalitions qui incluent des gens qui ne sont pas des gens bien partout. Et c'est peut-être la question pour les politiciens pro, quelque part, est-ce qu'ils peuvent créer une coalition qui pourra rassembler autant de gens?
David Goodhart, votre livre « Les deux clans », il est traduit aux éditions des Arènes, tandis que vous étiez traduit ici par Maître Zlotowski. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Vous serez en présence d'un député La République En Marche, Bernard Guetta. Et d'ailleurs, il sera précisément en direct de Bruxelles, c'est-à-dire au siège des gens qui sont bien partout, si je reprends votre grille d'analyse. Et on verra avec lui et avec vous comment se déroule finalement cette analyse et cette réaction au populisme.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et nous allons faire réagir nos deux invités à ce que vous venez de dire, Frédéric Seitz, David Goudard, qui est à côté de moi à Paris, qui publie Les deux clans aux éditions des Arènes, et à Bruxelles, Bernard Guetta, qui est eurodéputé du groupe Renaissance. Une réaction, Bernard Guetta, à ce qu'a dit Frédéric Seitz.
Mais je pensais en l'écoutant à un vers célèbre de Victor Hugo qui fait dire à un père de famille extrêmement pauvre et qui s'apprête à recueillir deux orphelins, je crois, et il dit « ces choses-là sont rudes, il faut pour les comprendre avoir fait des études ». Alors, je ne dis pas que ce soit une règle absolue, je ne dis pas qu'il faille toujours avoir fait des études pour comprendre la difficulté, la cruauté des choses. Mais après tout, pourquoi est-ce que ce serait un handicap d'avoir fait des études, de connaître des choses, d'avoir voyagé, de connaître le monde? Pourquoi est-ce que ce serait un handicap dans la compréhension de la dureté, des inégalités, de la cruauté sociale? Vraiment, je ne le comprends pas.
On va faire réagir David Goudard.
C'est intéressant ce pseudo-populisme adopté par les politiques. Par définition, les dirigeants politiques appartiennent à une élite. Il n'y a rien de mal à ça. Ils doivent appartenir à une élite en quelque sorte. Mais c'était plus facile pour les dirigeants politiques de représenter le corps politique, si vous voulez, dans les années 70, parce qu'il y avait plus d'homogénéité culturelle. Il n'y avait pas ce genre de stratification par étude politique telle qu'on le voit aujourd'hui. 75% des gens qui ont voté pour le Brexit ont très peu de qualifications. 75% de gens qui ont des diplômes supérieurs ont voté en faveur de l'Union européenne. On a ce clivage aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus dur pour les dirigeants politiques aujourd'hui de représenter des groupes de valeurs s'ils ne sentent pas qu'ils sont intimement reliés à eux. Vous savez, c'est pour ça que les gens, en fait, jouent ce jeu ridicule en faisant semblant d'appartenir à des lieux auxquels ils n'appartiennent pas, en fait. C'est un problème pour tous les pays riches. Comment est-ce qu'on peut à la fois encourager des jeunes qui veulent s'éduquer, qui veulent être mobiles, qui veulent vivre, qui veulent quitter leur ville, leur banlieue, et de rejoindre cette classe des anywhere, des gens qui sont bien partout. C'est légitime de vouloir le faire, mais comment réunir ça? Comment faire en sorte que les gens de la France périphérique ne se sentent pas diminués, ne se sentent pas mal? Comment est-ce que ceux qui restent là où ils sont vont sentir qu'ils ont une vie décente et réussie?
Bernard Guetta, deux questions. Maintenant que vous êtes élu au Parlement européen, que vous êtes eurodéputé, est-ce que vous avez plus le sentiment que la classe politique est déconnectée ou pas? Et ensuite, d'où vient selon vous ce sentiment qui semble quand même assez répandu au sein de la population française?
Alors écoutez, la déconnexion, je vais vous en parler pour le Parlement européen, pour le Parlement français ou les autres parlements nationaux, je ne sais pas, je n'ai jamais été député national, mais je suis absolument stupéfait depuis que je suis au Parlement à Bruxelles, c'est-à-dire depuis peu de temps, au contraire, par l'extrême connexion de ce Parlement avec les problèmes du monde et avec les problèmes nationaux. Si je vois raconter les journées que je passe ici, qui commence à 8h du matin et quand je suis invité par France Culture même à 7h du matin et qui se termine à 9h30, 10h le soir assez fréquemment, si je vous racontais les invités que l'on a, les témoins plus exactement que l'on a dans le travail de commission, par exemple hier à la commission droits de l'homme, sous-commission droits de l'homme dont je fais partie, nous avons eu successivement 5 personnes je crois, qui sont venues nous parler des témoins directs des violences physiques et économiques faites aux femmes des populations indigènes en Amérique latine. Je vous assure que c'est quelque chose, et ensuite un panel d'une exceptionnelle qualité sur ce qui se passe aujourd'hui dans la Syrie du Nord, dans le nord de la Syrie, depuis l'invasion turque. Extrême violence, évidemment, contre les populations kurdes, mais aussi contre les populations chrétiennes, contre les populations syriaques. Violence exercée, tenez-vous bien, par les milices entretenues par les Turcs et qui sont essentiellement constituées d'anciens tueurs d'Al-Qaïda et de Daesh. Les témoignages étaient vraiment là. Et alors, bon, il y a les commissions économiques, il y a les commissions sociales, etc. Non, au contraire, ce Parlement européen est incroyablement, vraiment, moi j'en suis très impressionné, incroyablement branché sur les problèmes, évidemment, des pays européens, mais du monde entier.
Qu'est-ce que vous en pensez, David Goodhart? Vous qui bientôt n'allez plus être dans l'Europe, puisque vous êtes britannique.
Ça semble être un bon exemple à quel point le Parlement européen est déconnecté. Ils sont beaucoup plus intéressés par la violence en Syrie que par le prix du pétrole, le prix de l'essence dans les banlieues. Vous savez, c'est exactement de ça que parlait la révolte des Gilets jaunes. Regardez la politique de l'Union européenne au cours des 20 dernières années. On a eu une politique extrêmement radicale au sujet de la monnaie unique, créer une monnaie unique qui n'était pas économique en fait. Pourquoi est-ce que la Grèce était dans la monnaie unique? Il y a eu l'érosion des frontières nationales par la liberté des mouvements. Il y a eu ce que beaucoup de gens ordinaires pensaient être l'érosion de la souveraineté nationale. Les politiciens ne peuvent plus retenir ce qui peut se passer dans les pays, parce que beaucoup des décisions sont prises à une chaîne internationale. Ce sont des choses qui angoissent les gens. Et le Parlement européen, pour la plupart des gens, est du mauvais côté de la barrière.
Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Guetta ? J'imagine que vous n'êtes pas d'accord.
Ah, c'est pire que ça. Je suis assez choqué par ce que vient de dire David Goodhart pour deux raisons. La première, c'est que je parlais du travail que je fais, moi, la sous-commission à laquelle j'appartiens. J'aurais pu aussi parler de la commission culture, de la commission des affaires étrangères, mais il y a évidemment, je les ai d'ailleurs mentionnés, les commissions économiques, budgétaires, sociales, etc., où l'on parle de tous les problèmes qu'a évoqué David Goodhart. Je parlais des problème que moi, auquel moi je suis confronté comme membre de ces commissions. Et puis, deuxièmement, enfin tout de même, Monsieur Goodhart, vous êtes journaliste comme moi, vous avez travaillé très longtemps, ou assez longtemps en tout cas, au Financial Times, c'est pas vous qui allez nous dire que l'Europe et chacun des citoyens européens, français, allemands, italiens, etc., seraient déconnectés de ce qui se passe en Amérique latine, de ce qui se passe au Proche-Orient, nous serions déconnectés de ce qui se passe au Proche-Orient, l'invasion à laquelle vient de procéder la Turquie n'aurait aucune répercussion en France, répercussion politique, économique, sociale. Mais enfin, vous êtes journaliste, ne nous dites pas le contraire.
David Goodhart.
Bien sûr, les événements internationaux ont un effet, un impact sur nous. Mais ça dépend d'où vous parlez. C'est le problème dans tous nos pays. Les dirigeants politiques, on l'a vu avec Margaret Thatcher, une fois qu'ils sont au pouvoir, depuis assez longtemps, ils cessent d'être enracinés dans les problèmes locaux et ils sont obsédés par les problèmes internationaux. Tout l'intérêt du prestige est attaché à ces réunions internationales. Et ils oublient simplement de leur cour. Ils oublient ce qui se passe chez eux, de ce qui arrive aux individus chez eux. Et le Brexit est lié à tout cela, d'une certaine manière. Notre Parlement, en fait, le vrai problème avec le Brexit, c'est que à quel point il est difficile de mêler, de lier la démocratie directe avec la démocratie représentative. Il y a eu un référendum où il y a eu une petite majorité pour quelque chose auquel le Parlement était très hostile. Et voilà, on arrive à cette pagaille. Mais c'était aussi un exemple excellent de la façon dont les politiciens, tout le monde était certain que le vote serait en faveur de rester au sein de l'Union européenne. Et nos dirigeants politiques, en dépit du fait qu'il y a des gens qui sont très liés à leur circonscription, et pourtant, ils ne l'ont pas compris. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver.
Une réaction, Bernard Guetta.
Écoutez, premièrement, tout le monde n'était pas persuadé que le non au Brexit l'emporterait au référendum. Je n'en étais pas persuadé du tout. Mes chroniques de l'époque peuvent en témoigner et je n'étais pas le seul. Mais c'est un petit point mineur. Revenons à l'impact des événements internationaux sur les événements nationaux et les situations des citoyens les plus humbles et les plus éloignés de ce problème. Je vous donne un exemple. Regardez la vague des manifestations de masse qui secoue aujourd'hui le monde. Chose très intéressante, on retrouve dans des situations tout à fait diverses, voire différentes, une communauté d'inquiétudes et de revendications. On dénonce à peu près partout la montée des inégalités. On dénonce à peu près partout le recul de l'état de droit. On dénonce à peu près partout la profonde injustice sociale qui règne aujourd'hui dans la plupart des pays du monde. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la future débutante campagne présidentielle américaine. Les candidats démocrates qui tiennent la rampe sont pour la plupart aujourd'hui des gens que l'on considérerait en Europe comme à la gauche de la gauche, avec leurs propositions, non pas d'impôt sur la fortune, mais pratiquement d'un retour aux impôts sur les plus riches qui étaient de mise au moment du New Deal sous Roosevelt et jusque dans les années jusqu'au début des années 70 aux États-Unis. Eh bien, peut-être assiste-t-on et peut-être les manifestations et la campagne présidentielle américaine en sont-ils le signe à un grand retour des idées de gauche, plus précisément keynésiennes, à un grand retour de la revendication d'égalité, à un grand retour de la dénonciation des inégalités et de la loi absolue du profit. Regardez, là, il se passe quelque chose dans le monde qui peut avoir des répercussions, mais alors très, très importantes, sur le plus humble et le plus discret de nos concitoyens vivant très, très éloignés des grands centres urbains et bien sûr, cher David Goudard, de cet abominable Parlement européen déconnecté de toutes les réalités.
Alors, dans ces conditions, David Goudard, si Bernard Guetta a raison, cela signifie que votre grille d'analyse entre bien partout et bien quelque part est remplacée par une grille d'analyse classique entre des politiques qui seraient plutôt attentive au sort des plus démunis et des politiques qui seraient plus favorables aux plus aisés. Que pensez-vous de cette évolution, si vous considérez qu'il y en a une?
Une chose que je vais dire à Bernard, c'est le keynésianisme dont il parlait avec enthousiasme est en fait interdit dans l'Union européenne. Vous n'avez pas le droit d'utiliser Keynes dans l'économie européenne. Alors bonne chance avec celle-là. Vous avez une vision du monde, un verre à moitié plein. Non, il y a eu un déclin de la pauvreté au cours des 20 dernières années. Mais ce déclin a été payé à très haut prix pour, en fait, les gens les plus pauvres et les classes moyennes dans la plupart des pays. Vous savez, la chaîne d'approvisionnement est passée vers la Chine. La plupart de nos usines ont fermé. Nous avons accru l'immigration vers nos pays. Beaucoup de gens se sentent très mal à l'aise à cause de ces changements. Je ne pense pas que le parti centriste que vous représentez, Bernard Guetta, a vraiment répondu à ces questions, parce que vous êtes vraiment à côté de ces changements et ils se produisent beaucoup trop rapidement et beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont pas été suffisamment protégées. Ça n'a pas tellement à voir avec l'inégalité économique. C'est un facteur. Mais comme je l'ai dit précédemment, si les inégalités économiques étaient vraiment la revendication centrale des gens, il y aurait beaucoup plus de populisme de gauche. Mais on ne l'a pas, ce populisme de gauche. Cela tend à être une défense nationaliste et conservatrice. Les gens veulent un rythme de changement beaucoup plus lent. Et c'est parfaitement légitime de leur point de vue.
J'imagine, Bernard Guetta, que depuis Bruxelles, vous voulez réagir.
Oui, vous imaginez à juste titre. Non, je voudrais dire à David que je suis si peu à côté des changements que je venais de décrire en parlant des manifestations et de la campagne des primaires américaines qui débute. Je venais de décrire les changements en cours aujourd'hui. en cours, j'exagère peut-être, j'exagère certainement, les changements débutants aujourd'hui, alors que lui décrit les changements qui ont eu lieu à la fin des années 70 et au début des années 80, au moment du triomphe de la vague néolibérale. Mais cher David, ouvrez les yeux. Aujourd'hui, précisément, la roue commence à tourner et il y a un retour au keynésianisme et notamment au Parlement européen. Et je vous en supplie, ne dites pas que Keynes est interdit au Parlement européen. Rien n'est interdit au Parlement européen. Simplement, on sort d'une période dans laquelle, hélas, car ce ne sont pas mes idées, je dis hélas, car ce ne sont pas mes idées, les idées néolibérales étaient totalement triomphantes dans le monde entier, y compris au Parlement européen. Et par triomphante, je veux dire majoritaire et non pas répandue dans tous les courants politiques. Alors oui, effectivement, il y eut une période en Europe, dans les différents pays européens, pas seulement dans les institutions communes, où les idées de Madame Thatcher et du Financial Times, d'ailleurs, étaient absolument dominantes, mais je crois véritablement que l'on sort de cette période, et je vous en donne un seul exemple. Aujourd'hui, l'idée de politique industrielle n'est absolument plus considérée comme choquante au Parlement européen. Elle a ses partisans, ses adversaires, mais elle n'est absolument plus considérée comme choquante.
Dans votre livre, David Goudart, par rapport à ce que vient de dire Bernard Guetta, il y a aussi une variable qui, dites-vous, n'est pas prise en compte par les gens qui sont bien partout, c'est la variable culturelle. Et vous dites d'ailleurs que, je vous cite en substance, le libéralisme est ignorant en matière culturelle, ça n'est pas son affaire. Expliquez-nous pourquoi ça c'est une variable au moins aussi importante et peut-être même plus importante pour vous dans ces politiques que les seules politiques économiques.
Well, because I think human beings are not just...
Je crois que les êtres humains ne sont pas simplement des unités économiques. Ils ont un sens d'appartenance à un lieu, un sens d'identité. Les choses que le libéralisme n'a pas pris en compte. Le libéralisme est basé sur l'individu. Et aucun d'entre nous n'est un individu comme ça placé au hasard des choses. On a une famille, on a des voisins, etc. Et le libéralisme, le libéralisme de marché, on a eu la domination au cours des 30 dernières années, depuis la fin de la guerre froide, de ce que j'appelle le double libéralisme, libéralisme économique et le libéralisme socio-économique. Le genre de libéralisme qui dit, que j'entends quand je vais aux conférences sur race, immigration, réfugiés, pourquoi on ne pourrait pas avoir 100 000 Afghans de plus ici? Comment peut-on les intégrer? Les gens de la gauche libérale pensent d'une certaine manière comme Margaret Thatcher. Ça n'existe pas, la société, pensent-ils. Nous sommes qu'une collection d'individus. Et alors, 100 000 réfugiés d'Afghanistan de plus, où est le problème? Alors que, bien sûr que l'on comprend qu'il y a quelque chose qui s'appelle la société. Et c'est très difficile d'absorber, d'intégrer énormément de gens d'autres cultures rapidement. Mais le libéralisme ne le comprend pas.
Votre point de vue, Bernard Guetta, à ce sujet.
Écoutez, j'ai un peu le sentiment que David Goudart, quand il emploie le mot libéralisme, le fait comme le font les Américains. C'est-à-dire qu'il désigne par ce mot la gauche, et même la gauche de la gauche. C'est un peu gênant pour moi, parce que cela signifie donc que lui ne se situe pas du tout dans la gauche, et encore moins dans l'extrême gauche, et qu'il reprend là le vocabulaire et la manière de penser de la droite, si ce n'est des droites radicales. Je n'ai pas dit des extrêmes droites, j'ai dit des droites radicales. Alors, revenons aux choses basiques. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme? nationalisme à l'origine, c'est ce grand mouvement des idées introduit par les Lumières au XVIIIe siècle et qui tout simplement prônait les libertés dans le domaine culturel, dans les domaines politiques naturellement, mais aussi dans le domaine du commerce, briser les monopoles des monarchies, très souvent d'ailleurs, à l'époque. Et ce grand mouvement de la liberté contre les monarchies, contre les autocraties, contre les monopoles, a donné ensuite des courants de pensée, des sous-courants de pensée extraordinairement opposés. Margaret Thatcher et les Chicago Boys incarnaient ce que j'appellerais moi un néolibéralisme, un nouveau libéralisme qui prenait tout simplement le recul absolu de l'État, le recul absolu de l'imposition fiscale et donc de la répartition des richesses par l'impôt. C'est un des courants du libéralisme, mais Keynes appartient aussi évidemment au grand mouvement libéral introduit par le 18e et les Lumières, au grand mouvement des libertés, mais lui au contraire prônait la redistribution des richesses par l'impôt et prônait l'équité sociale et bien d'autres choses encore. Donc il faut faire extrêmement attention et pardonnez-moi, David, mais un peu plus attention que vous ne le faites avec l'usage du mot libéralisme et libéral.
Un mot de conclusion, David Goodhart.
Well, I mean, just to return to the Keynesian point.
Pour revenir au point de Keynes, je suis désolé, Bernard, mais le groupe de loi de l'Union européenne interdit le keynésianisme. Vous n'avez pas le droit parce que vous êtes sous le talon de l'ordre libéral allemand. Il faut lire les livres. Ils ne croient pas au déficit. Et il faut vous soumettre aux lois de la pensée allemande. Mais bien sûr, tout le monde est en faveur de la redistribution. Il y a des discussions sur la quantité de redistribution. Mais un des problèmes avec le libéralisme, c'est l'hostilité à la tradition. Tout est vu comme un manque de contraintes. Le libéralisme est considéré comme étant l'absence de contraintes. Et là, on a un vrai problème. C'est ce contre quoi les gens se révoltent. Mais ma conclusion, c'est que la culture, c'est très important. Il est plus facile de diviser la politique quand elle portait sur la socio-économique. Quand c'est culturel, c'est beaucoup plus difficile de le faire.
Un dernier mot de conclusion rapide, Bernard Guetta, je vous prie.
Je suis vraiment inquiet quand David dit que le libéralisme, c'est l'absence de contraintes. Non, ce n'est pas cela. Et j'ai peur d'entendre que la liberté, c'est l'absence de contraintes et que la dictature, ce serait tellement mieux parce que là, il y a des contraintes et le respect des traditions.
Merci Bernard Guetta. Je rappelle que vous étiez en duplex depuis Bruxelles et votre livre David Goodhart, Les deux clans est publié aux éditions des Arènes.